La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette 18e émission de la Semaine de l'Art, que vous pouvez écouter bien sûr de la page du site La Tribune de l'Art et qui, en direct, et qui sera réécoutable bientôt à partir d'une autre page de cette Tribune de l'Art. Elle sera podcastable par les abonnés et uniquement par les abonnés, donc je vous rappelle que l'abonnement ne coûte que 40 euros par an. Voilà, c'était la page de publicité personnelle et maintenant je me tourne vers notre invité, Philippe Bellaval. Bonjour Monsieur Bellaval.
Bonjour.
Vous êtes direct président du Centre des Monuments Nationaux. Vous étiez également avant directeur des patrimoines, donc je pense que nous aurons l'occasion effectivement de parler de cette action en tant que directeur des patrimoines, du Centre des Monuments Nationaux, c'est une centaine de monuments. Mais avant cela, la chronique.
La chronique.
Le site Louvre pour tous, créé et dirigé par Bernard Askenoff, a sorti il y a quelques semaines un véritable scoop qui n'a manifestement pas beaucoup intéressé les grands médias ni les quotidiens. On se demande vraiment pourquoi, alors que ces révélations sont symptomatiques à une échelle jamais connue d'une dérive que nous ne cessons nous-mêmes de dénoncer. En réalité, son premier article est plus ancien, puisqu'il remonte à août 2013. Il donnait alors le véritable nom d'un artiste, je mets le terme entre guillemets, connu sous le pseudonyme d'A.A.E. A.H.A.E. dont une exposition de photographies était alors présentée à l'orangerie du château de Versailles. Ce photographe s'appelait en réalité Byung Eun Yoo, et était un richissime coréen dont la personnalité trouble était fort bien décrite par Bernard Askenoff. Sa première exposition en France avait eu lieu dans un pavillon construit aux Tuileries, un jardin rattaché administrativement au musée du Louvre. Et Louvre pour tous montrait alors que ses rétrospectives aux Tuileries comme à Versailles, cautionnées par deux des plus grands musées français, étaient en réalité entièrement financées par Byung Eun Yoo lui-même. Soit le niveau ultime des publi-expositions, un milliardaire se paie le Louvre et Versailles qu'il privatise pour exposer ses œuvres dont le moins que l'on puisse dire est qu'elles n'ont jamais brillé par leur importance artistique. Comme le dit Bernard Askenoff, le mélange des genres est total. On rajoutera, car c'est également d'actualité, que ce même Byung Eun Yoo est, pour 1,5 million d'euros environ, le mécène du Bosquet de Versailles revu et corrigé par O'Donnell, une réalisation décidée en son temps par Jean-Jacques Ayagon avant qu'il ne quitte la présidence du château. Ces informations de Louvre pour tous étaient déjà gênantes pour ces musées. Depuis quelques semaines, elles prennent un tour encore plus scandaleux, alors qu'on a appris que l'artiste, nous mettons encore ce terme entre guillemets, est compromis dans l'affaire du naufrage du ferry coréen le Sewol, qui a causé la mort de plus de 300 personnes. Nous renvoyons au site de Bernard Askenoff pour lire ce qui est reproché par la justice coréenne à ce monsieur, auquel, pour ces quelques centaines de milliers d'euros, des musées français proposent leur simèse. Ajoutons d'ailleurs que le Louvre pour tous vient aussi de révéler que la Philharmonie de Paris, dans sa salle d'exposition où sont organisés normalement des événements liés à la musique, va à son tour montrer A-H-A-E, A-E, je ne sais pas comment on prononce, sans que le président de la Philharmonie y voie un quelconque problème. Nous avons souvent posé la question du mécénat. Nous sommes sans ambiguïté aucune favorable à celui-ci. Mais on rappellera qu'Henri Loiret déclarait au Monde le 21 mars 2013 « On peut être inventif sans vendre son âme », affirmant qu'un mécène n'intervient jamais dans les choix artistiques du musée. On définit un projet, puis on le propose à un mécène qui l'accepte ou pas. C'est toujours dans ce sens que cela fonctionne. C'était évidemment faux pour l'exposition d'A.A.E. aux Tuileries, comme ça l'était également à Versailles, et comme ça le sera à la Philharmonie. Certains n'hésitent pas à vendre leur âme, et parfois, ils s'aperçoivent un peu tard que c'était au diable. Philippe Bellaval, donc je me tourne vers vous, car vous avez une carrière professionnelle au service de la culture bien remplie, puisque, alors rappelez-nous un petit peu votre parcours, vous avez fait...
J'ai été directeur général de l'Opéra de 1990 à 1992, puis de la Bibliothèque nationale de France de 1993 à 1998, directeur des Archives de France de 1998 à 2000, directeur général des patrimoines de 2010 à 2012 et président du Centre des monuments nationaux depuis 2012, sans parler de missions plus ponctuelles. J'ai présidé le conseil d'administration de l'Institut national du patrimoine. J'ai rédigé en 2004 un rapport sur la philharmonie précisément. Enfin bref, voilà, j'ai un certain nombre de...
Vous êtes au cœur donc de la plupart de nos institutions culturelles. Alors, je vous le disais avant cette émission, ce que j'apprécie chez vous, c'est que je n'ai jamais été très tendre, je ne suis jamais très tendre, comme vous le savez, avec le ministère de la Culture, et même au moment où vous y étiez, j'avais certaines critiques que je n'hésitais pas à faire, mais nous nous sommes toujours bien entendus parce que vous acceptez les critiques et parce qu'on peut discuter avec vous.
Bien sûr.
Donc c'est ce que nous allons faire ici, on va essayer de le faire sans langue de bois.
Bien sûr.
Donc revenons un petit peu, avant de venir au Centre des Monuments Nationaux, qui pourrait nous occuper pendant toute une émission, même plusieurs, sur votre passage à la direction des patrimoines. J'ai toujours été frappé. Quand je discute avec vous, d'abord, vous êtes quelqu'un de cultivé, ce qui n'est pas toujours le cas de certains hauts fonctionnaires, et qui aimait le patrimoine. Or, est-ce que vous n'étiez pas, de temps en temps, face à certains problèmes, on avait l'impression qu'au ministère de la Culture, on ne peut pas toujours faire ce qu'on voudrait. Est-ce que ce n'est pas complexe d'être directeur des patrimoines, et pourquoi est-ce que c'est si compliqué, finalement ?
Oui, bien sûr, c'est complexe parce que il faut tenir compte d'objectifs, de préoccupations et de priorités qui parfois sont difficiles à concilier. Voilà, j'étais directeur du patrimoine, mais en même temps, en tant que tel, j'étais directeur de l'architecture, j'étais directeur responsable des musées, des archives, donc. Il fallait, à partir de tout cela, essayer de définir une politique. Et c'est d'autant plus difficile que dans ce ministère et dans ce secteur du ministère, on voit bien que c'est au travers de multiples dossiers qu'une politique peut être construite, c'est-à-dire en fonction des positions qu'on prend sur tel ou tel projet d'extension, de modernisation, de restauration, etc. Voilà. Donc c'est une action lourde, passionnante, essentielle, que j'ai essayé de mener avec le souci toujours d'inscrire le patrimoine, puisque c'est le patrimoine qui nous intéresse principalement ce soir, dans la vie de son temps et dans une perspective d'avenir, puisque la mission patrimoniale, c'est une mission de transmission et donc c'est une mission qui est orientée vers l'avenir. Alors c'est vrai que dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu à connaître des dossiers extrêmement difficiles, dont certains d'ailleurs remplissent l'actualité la plus récente, comme celui de la Samaritaine, c'est celui auquel je pense. Et c'est là où on n'a pas toujours été d'accord, parce que pour moi, la défense du patrimoine, ce n'est jamais la défense d'un patrimoine figé, mais d'un patrimoine vivant. Ce n'est pas d'un patrimoine coupé des réalités du monde contemporain, mais au contraire, ouvert à ces réalités, enrichissant ces réalités et capable de traverser les générations futures comme il a traversé les générations passées.
Alors parlons justement de la Samaritaine, un dossier qui nous occupe effectivement beaucoup en ce moment. Vous parlez de Il ne faut pas un patrimoine figé, mais dans le cas de la Samaritaine, on n'a pas un patrimoine figé, non. On a un patrimoine détruit. Détruit alors que les associations avaient porté l'affaire devant le tribunal administratif. Je pense que vous avez suivi l'affaire, qu'il y a eu une demande de référé, que ça pose quand même un problème au niveau de la justice, c'est que quand un bâtiment est détruit, on ne peut pas le refaire. Or, les associations demandaient l'interruption des travaux, qui a été refusée par le juge référé n'a même pas jugé, parce qu'il a dit que ce n'est pas recevable, pour une raison qui est une erreur manifeste de droit, c'est ce qu'a dit le Conseil d'État. Et là, vient d'arriver donc une décision, sur laquelle on lit beaucoup de choses dans la presse, et beaucoup de gens crient « Mon Dieu, c'est affreux, on ne va plus pouvoir construire quoi que ce soit dans Paris, mon Dieu, c'est affreux, Paris va redevenir une ville de province ». C'est absolument, je pense, ahurissant, parce que finalement, là, le tribunal administratif s'est contenté de dire le droit, c'est son rôle. Il y a dans le PLU quelque chose qui dit il faut une intégration. C'est le PLU qui le dit, c'est la ville de Paris qui le dit. Ce n'est pas l'intégration. Quand on regarde les photos et les montages de Sanaa, on voit très bien que l'intégration, elle n'est pas là. Donc ils ont jugé là-dessus. On ne dit pas l'architecture de Sanaa n'est pas bien, on dit elle ne s'intègre pas. Et vous vous dites elle s'intègre et vous dites finalement, après tout...
Non, on a, si vous voulez, bon, c'est une opération particulièrement complexe et sensible. Hein. On est en plein cœur de Paris,
c'est
du Paris historique. On est en bordure des berges de la Seine qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est au bout du Pont-Neuf et on a tout un ensemble d'immeubles présentant des caractéristiques différentes, d'immeubles d'époques différentes d'ailleurs. Et on a un quadrilatère composite, lui-même d'ailleurs parcouru par plusieurs voies, avec une façade sur la Seine et une façade sur la rue de Rivoli qui présentent des caractéristiques différentes. Quand on examine au stade de l'examen administratif un projet de cette nature-là, on essaie de voir ce qui passe, ce qui ne passe pas, et on essaie d'avoir une sorte d'appréciation du projet par rapport aux contraintes évidemment juridiques qu'il faut prendre en compte de façon impérative, et puis par rapport à la conciliation entre la préservation des caractéristiques des bâtiments qui doivent être préservés et du besoin qui va permettre le développement de la vie et de l'activité dans ce lieu quand il a cessé d'être un grand magasin ou un ensemble de grands magasins. Alors, bon, c'est un projet sur lequel il y a eu beaucoup de réflexions, de concertations, d'allers-retours, etc. Et dans l'état qui a donné lieu à la détermination du permis de construire, à la délivrance du permis de construire, il semblait qu'on était parvenu à un état d'équilibre dans lequel, bon, la préservation du patrimoine ne vous paraissait pas suffisante, mais dans lequel un certain nombre de choses ont été faites. Puis la justice a été saisie, et c'est dans notre état de droit la possibilité que toutes les associations ou tous les citoyens qui en ont la possibilité puissent saisir la justice, et la justice s'est prononcée. En faisant d'ailleurs, non pas du tout, je vous rejoins tout à fait, une appréciation esthétique, mais une appréciation juridique.
Mais parce d'accord, hein, ça c'est clair, c'est
oui, alors évidemment, l'intégration, il y a une part d'appréciation.
Mais
dire que l'édifice tel qu'il était projeté s'intègre ou ne s'intègre pas dans le paysage environnant, ce n'est pas esthétique, c'est une appréciation juridique. Bon, voilà. Alors maintenant, il faut évidemment tenir compte de la décision du tribunal administratif, voir comment le projet peut être repris, doit être modifié,
mais le problème, c'est
etc.
Ils n'essayent pas de le modifier, ils font appel. Alors finalement, c'est assez amusant quelque part, parce qu'ils vont faire appel, ça va durer un an et demi, deux ans. Le tribunal administratif s'est prononcé quand même en session plénière, ce qui est assez rare, ce qui donne d'autant plus de force à cela. Il n'y a pas de raison de penser que l'appel sera jugé différemment. Finalement, on est un peu comme dans un autre sujet sur lequel on revient, j'aimerais revenir avec vous, dans le sujet des arbres de toit, une espèce d'obstination, plutôt que de se dire finalement on a réussi à démolir 3 des 4 ou 4 bâtiments sur 5, essayons de modifier, demandons à Sanaa, qui sont des grands architectes, ça c'est quelque chose que je ne nierai pas. Ça serait absurde de ma part.
Et des spécialistes de l'intégration dans un contexte bâti.
Donnons-leur des contraintes qui sont celles du PLU, qu'ils les respectent, et ils nous feront un bâtiment qui respectera davantage la forme, le gabarit, sans être un pastiche. S'ils sont si doués que cela, et je le pense qu'ils sont, ils pourront le faire. Mais non, on préfère s'accommoder. La ville de Paris, quand même, au service d'intérêts privés, moi je trouve quelque part, c'est que la Samaritaine fasse appel, on comprend que la ville de Paris le fasse. Une question quand même par rapport à ça, vous étiez donc... L'ABF a donné son accord, mais moi j'ai l'impression, et je ne suis pas le seul à le penser, que dans ces cas-là, l'ABF normalement est indépendant. Il n'est pas indépendant, il a forcément des instructions, ça je n'y crois pas une seule seconde. Comme pour d'ailleurs le deuxième point que j'aimerais qu'on aborde avec vous, parce que vous étiez également en charge de ce dossier, c'est les serres d'Auteuil. L'ABF ne donne pas...
Si vous voulez, le souci de l'ABF, c'est que... Le monument, enfin, disons que la Samaritaine est un monument, Et je crois qu'il l'est vraiment, d'ailleurs, dans l'immeuble sur la Seine, a un caractère monumental qui fait vraiment partie du paysage de Paris. Donc, si vous voulez, le souci, c'est de faire en sorte que cet immeuble retrouve un usage. Et donc, l'ABF, bien sûr qu'il est indépendant, et bien sûr, il a procédé à un examen, mais que faire à partir du moment où le grand magasin fermé? Que faire de ce lieu-là ?
Rien n'empêchait de simplement de construire comme là. C'était quand même du façadisme auparavant. C'est-à-dire que l'îlot 19e, 17e, 18e n'avait plus le 17e, 18e, 19e que la façade, ce qui était déjà beaucoup. À mon avis, c'est jamais suffisant parce que le façadisme, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est mieux déjà que. Eh bien, on pouvait simplement donner comme contrainte, à la limite, de construire à l'intérieur. C'était tout à fait faisable. Non, on a voulu faire un geste architectural. Et le président de la Samaritaine l'a déjà dit. Il veut montrer que la Samaritaine, c'est là. Il a voulu faire un grand geste. Ils le disent. On parle d'intégration, mais ils disent bien, on veut quelque chose qui se voit de loin, donc c'est pas quelque chose qui s'intègre.
Non, mais
c'est un peu dommage. On pouvait faire quelque chose sans aller si loin.
L'ABF, si vous voulez, son rôle n'est pas simplement d'être dans le manichéisme, enfin de dire oui ou non, ça passe, ça ne passe pas, et dans un projet de cette nature, aussi visible, donc en plein cœur de Paris, je le redis, il a cherché ce qui lui paraissait un point d'équilibre avec des architectes qui sont quand même très ouverts au dialogue, et, comme vous le disiez, très, très doués. Le résultat des courses, moi je ne commente pas la décision du tribunal administratif, c'est la loi commune, et en plus, en tant que membre du Conseil d'État, vous vous doutez bien que je vais être le dernier à jeter la pierre au tribunal administratif de Paris. Mais aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle on a une friche en plein cœur de Paris. Et en plus, avec effectivement des destructions qui ont commencé à la faveur d'un épisode fâcheux de la procédure judiciaire. Donc, il faut absolument qu'on en sorte le plus vite possible et le mieux possible. Parce que l'intérêt, c'est pas de conserver à cet endroit-là cette friche.
On n'en prend pas la voie, mais je pense que la faute de la Samaritaine et de la ville de Paris, qui ne devrait pas être là. On va pas passer là. On a bien compris votre position, je crois, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose.
Non, mais je crois que, si vous voulez, dans ces domaines-là, il n'y a pas de vérité, comme on pourrait le croire parfois, d'opposition de principe entre évolution des usages, modernisation, réponse à des besoins sociaux, création architecturale et préservation du patrimoine. Je crois que, comme plusieurs commentateurs l'ont dit, tout ça, ce sont des contraintes que des architectes de talent savent surmonter parfaitement. On peut travailler très bien autrement que dans la tabula rasa. Et voilà. Et donc, moi, je souhaite que ce soit dans ce sens-là que tous les esprits convergent après la décision du tribunal administratif pour que ce quartier de Paris, ces monuments absolument remarquables, soient à nouveau un sujet de fierté pour tout le monde et pas, comme ils le sont ce soir, un sujet de préoccupation.
Alors, deuxième point, donc on va essayer de faire rapide, on pourrait revenir.
Oui, pardon.
J'aurais un point sur lequel, parce que c'est aussi d'actualité, même si ce n'est pas l'actualité immédiate, ouais, mais ça se poursuit actuellement, et vous étiez également aux affaires, ouais, à cette époque-là, les serres d'Auteuil.
Oui. Oui, oui.
Vous connaissez bien sûr ma position qui est. J'ai beaucoup publié là-dessus.
La surface de Paris est extrêmement limitée, hein, par rapport à celle d'autres villes. Et donc, à partir du moment où la ville de Paris a considéré que l'extension de Roland-Garros devait nécessairement se faire dans ses limites administratives, eh bien, évidemment.
Vous savez. Alors, c'est vrai qu'il y avait des doutes là-dessus. Moi, je pense que la meilleure solution aurait été, comme d'ailleurs ça se passe en Angleterre et à New York et aux États-Unis, où c'est pas du tout dans Londres même ni dans New York même que se passent les tournées du Grand Chelem, c'était d'aller à Marne-la-Vallée qui est très accessible. Il y avait une autre solution qu'ont proposé les associations qui ne se contentent pas d'ailleurs de contester, oui, mais qui ont
proposé de couvrir
en montrant
l'autoroute.
D'ailleurs par les experts et même les experts délégués par la Fédération française de tennis ont reconnu que c'était pas beaucoup plus cher. Et puis on s'obstine. C'est quelque chose qui est incompréhensible.
Oui, mais c'est très français. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce genre de débat donne lieu à des positions extrêmement tranchées de part et d'autre, et au bout d'un certain temps, le dialogue devient impossible entre...
Je crois pourtant que les associations justement, ont été très constructives en donnant une solution alternative qui permettrait
oui.
de rester dans Paris. Et puis c'est
non, non, mais je ne dis pas que dans cette affaire-là, l'obstination a été du côté des des associations. Mais c'est voilà, c'est plus les sujets sont sensibles et susceptibles d'avoir des conséquences graves, plus le dialogue, la concertation, l'élaboration collégiale des projets devrait être
Nous
la règle. Et on en est, c'est vrai, encore
Assez
loin en France.
Alors, passons maintenant à l'actualité pour vous la plus urgente, enfin pas la plus urgente, mais la véritable actualité, qui est le Centre des Monuments Nationaux. Alors, peut-être en deux mots, parce que je pense que tout le monde connaît le Centre des Monuments Nationaux, mais dites-nous quand même...
J'espère.
Mais bon, auparavant, la Caisse Nationale des Monuments Historiques...
Voilà, donc c'est un établissement public qui autrefois s'appelait Caisse Nationale des Monuments Historiques, qui a été créé par une loi de juin 1914, donc l'établissement fête son centenaire cette année. C'est un établissement rattaché au ministère de la Culture et qui exploite pour le compte de l'État... une centaine de monuments historiques appartenant à l'État et ouverts au public. Voilà, alors ces monuments sont très divers, puisque ça va depuis un certain nombre de grottes préhistoriques de la vallée de la Vézère, les dernières à être ouvertes au public, celles où l'état de conservation ne s'oppose pas à l'ouverture, et ça va jusqu'à la Villa Savoie de Le Corbusier ou à la Villa Cavrois de Malé Stevens, voilà, qui ouvrira l'année prochaine, qui a été construite en 32, enfin achevée en 32. Donc vous voyez, on couvre plusieurs millénaires d'histoire. Donc il y a des grottes, il y a des sites archéologiques, il y a des châteaux, il y a des monuments symboliques comme l'Arc de Triomphe ou le Panthéon, il y a des abbayes, il y a tout un ensemble.
Finalement, quand je réalise finalement, là je connais bien sûr le Centre des Monuments Nationaux, et finalement quand on dit ça, on s'aperçoit que c'est peut-être le plus gros établissement public.
Ben, j'ai la faiblesse de le croire, j'ai la faiblesse de le croire parce que nous avons reçu 9 millions, dans le Mont-Saint-Michel, la cité de Carcassonne, les alignements de Carnac, l'abbaye de Cluny. Nous avons reçu 9 200 000 visiteurs en 2013, et c'est autant que le Louvre, mais le Louvre c'est en un seul lieu. Voilà. Nous c'est sur toute la France métropolitaine, en tout cas au continental, puisque nous n'avons pas de monument en Corse, pas encore en tout cas. Et voilà. Et donc nous sommes effectivement, de mon point de vue, le plus gros opérateur du ministère de la Culture.
Les nouvelles très très brèves.
Nous sommes obligés de revenir sur la révocation d'Anne Baldassarre, dont nous avons déjà beaucoup parlé sur le site, non pour donner une nouvelle que tout le monde connaît, mais pour s'étonner de l'étonnement de certains. Si le ministère de la Culture est d'une certaine manière à blâmer, ce n'est pas pour avoir demandé à la présidente du musée Picasso de partir. Je pense que, de manière objective, il y avait un vrai souci, mais pour le lui avoir demandé si tard, alors que son maintien demeurait pratiquement impossible malgré le soutien de la famille Picasso. Toujours à propos d'ailleurs du musée Picasso, il semblerait que le maire de l'arrondissement, qui n'était pourtant pas choqué par la destruction du jardin de l'hôtel Salé, ni par la construction de la pergola dont nous avons parlé sur le site également, et finalement, il semble qu'il ait finalement demandé, devant les protestations, la destruction de la partie centrale de celle-ci. Mais c'est une demi-mesure. Il est clair, quand on passe devant cette belle façade, que cette pergola, que certains n'hésitent pas, je crois, enfin je ne l'ai pas encore lu, mais évidemment il y a toujours cette idée que dès qu'une architecture est moderne, dès qu'une architecture est contemporaine, c'est la tour Eiffel qu'on veut détruire. On est contre la tour Eiffel, c'est vraiment, ça me fait beaucoup rire. Pour ceux qui sont passés devant cette façade, ils ont vu la pergola en question, qui est juste un amoncellement de ferraille. C'est vraiment n'importe quoi, enfin on est vraiment, on délire totalement, on est en face d'une des plus belles architectures du XVIIe siècle dans le Marais, secteur sauvegardé. Vraiment, ça paraît, je vous vois quand même, peut-être sur ce plan, pas du tout sur la direction du musée Picasso, mais simplement sur la construction, cette construction, vous l'avez vue.
Je ne l'ai pas vue, non. Donc, je ne l'ai vue qu'en photographie. D'accord. Ou sur votre D'accord. site, etc. D'accord. Donc, je réserve mon jugement.
D'accord. Voilà, il est, donc, Voilà, pour moi en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette pergola doit disparaître, et donc on espère qu'elle le sera. C'est assez facile à faire partir, hein. C'est beaucoup plus difficile de reconstruire les bâtiments détruits de la Samaritaine que de démolir cette pergola qui n'est vraiment pas grand-chose. En tout cas, c'est pas construit par Sanaa, ça c'est sûr. Alors, autre petite nouvelle, c'est pas vraiment une nouvelle, c'est un étonnement, aller sur le site de la mairie de Paris. On dit lui beaucoup de choses très intéressantes, et je mettrai le lien sur l'article. La manière dont la mairie de Paris présente la future restauration de la halle Frayssinet, un sujet dont nous avons également en son temps beaucoup parlé, est absolument mais ahurissante. On lit ainsi, et je le lis tel quel. Particulièrement sensible à la valeur patrimoniale de la halle, la ville a décidé dès 2001 de renoncer à sa démolition et s'est opposée au projet d'implantation du TGI par l'État, qui ne garantissait ni sa conservation, ni son intégration dans le quartier. On croit rêver quand on sait que la bataille qu'ont menée les associations contre la ville, quand on pense à cette bataille, la ville se proposait de détruire la halle, sinon totalement, du moins en partie. Comme le rappelle l'association Sauvegarde et Mise en Valeur du Paris Historique, 4 mois après son inscription, il n'y a qu'à lire la Tribune de l'Art pour s'en rappeler, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, réclamait sa désinscription. C'est quand même prouvé, cette page est absolument choquante parce que. Je crois qu'Anne Hidalgo, lorsqu'elle était élue, avait dit qu'elle aimait la vérité, elle détestait le mensonge. Eh bien, elle pourrait peut-être commencer par son site internet. Alors, Philippe Bellaval, parlons de plusieurs monuments, parce qu'on va parler beaucoup de monuments.
Oui.
Et ça, c'est quand même une chose qu'on aime bien faire à la Tribune de l'Art. Et en plus, pour de bonnes nouvelles, je veux dire. Hein, il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles dans le patrimoine. Le centre des monuments nationaux, donc c'est par exemple la Villa Cavrois
Oui.
de Mallet-Stevens, dont on sait, hélas, qu'elle a longtemps été laissée à
Oui.
l'abandon, mais que vous êtes en train de restaurer dans
Sauvé d'un cheveu, grâce à l'intervention de l'État.
Alors l'État l'avait acheté, comment ça s'est passé? Parce que est-ce que l'État l'avait depuis longtemps?
Non,
Est-ce qu'il y
non,
avait
non,
pas un
non,
moment.
non, non, c'est-à-dire qu'il y avait, il y avait eu, il y a eu une très longue période obscure, si vous voulez, pendant laquelle la villa a été squattée, pillée, et proche de la destruction. Et puis finalement, donc il y a eu l'État, évidemment, sous notamment la pression d'une association de défense particulièrement active et à laquelle on doit être très redevable en l'occurrence. L'État, évidemment, s'est quand même inquiété du sort
Il a
et
acheté.
a propos non, il a commencé par proposer aux collectivités territoriales de
Oui.
le faire, et puis celles-ci ont tardé, et donc l'État, pour sauver la villa, l'a acheté.
Donc voilà,
Et
donc ça,
voilà.
on est assez critique à la Tribune de l'Art contre l'État pour dire que tout ce
Ah
qu'il y
non,
a
non,
est pas
c'est
vraiment, c'est mieux.
voilà,
Parce que
absolument.
c'est une chose merveilleuse que je n'ai pas visitée moi-même, mais je sais que c'est absolument formidable. Alors, dans quel état elle était quand vous l'avez
Ah ben,
trouvée?
elle était dans un état absolument pitoyable, avec les décors arrachés.
Alors, comment avez-vous fait? Vous êtes obligé de reconstituer une partie
Alors
des décors?
voilà, exactement. Donc on reconstitue l'État de 1932, parce qu'il faut dire que entre-temps, à la suite du décès des premiers propriétaires et commanditaires de la villa, elle avait été découpée entre leurs héritiers en plusieurs appartements, et notamment le grand salon central avait été entresolé, et ce qui fait que ces proportions absolument remarquables prévues par Mallet-Stevens étaient dénaturées. Donc nous le remettons dans l'état de 1932, et les visiteurs vont pouvoir se rendre compte du travail accompli, parce que nous avons décidé de laisser une pièce dans l'état dans lequel l'État a racheté le monument, c'est-à-dire une pièce à l'état de ruine. Voilà.
Mais alors la question quand même, parce que vous savez qu'on est toujours un petit peu précautionneux sur les conditions des réconstitutions, il y a des
Oui.
décors,
Alors,
quels
si vous
étaient
voulez,
leurs.
c'est-à-dire qu'il y a des éléments d'abord qui sont restés
Oui.
parfaitement en l'état et qui ont miraculeusement été sauvés, et c'est en particulier le cas des sols, des parquets. Donc ça, nous avons restauré les parquets, et la restauration est tout à fait spectaculaire, tout à fait remarquable. Bon. Par contre, il y avait par exemple des décors dans la salle à manger, de plaques de marbre qui avaient été arrachées, etc. Mais nous avons retrouvé le gisement de marbre, la carrière de marbre, et donc on a pu refaire des plaques à l'identique dans une très grande fidélité à l'origine. Et puis alors d'autre part, il y avait comme c'était très fréquent dans l'art des années, les arts déco, il y avait, si vous voulez, tout un tas de meubles, canapés, bibus, sofas, etc., qui étaient intégrés aux murs eux-mêmes, enfin, qui étaient sortis immeubles par destination, autour de la cheminée, des banquettes, etc. Et donc ça, nous l'avons reconstitué parce qu'il y a une couverture photographique extrêmement riche qui avait été faite et on a des sources extrêmement fiables. Voilà. Alors, par ailleurs, le CMN a acheté un certain nombre de meubles ou d'objets provenant de la villa, pas énormément, parce que malheureusement, ils sont peu fréquents sur le marché et ils sont en des mains publiques ou privées en France ou à l'étranger. Enfin, on a racheté quand même un certain nombre d'objets. Assez récemment, une statuette qui était dans le salon. Un donateur très généreux vient de nous donner les placards de la cuisine, voyez. Donc, on va quand même être en mesure... Oui, voilà, absolument, absolument. L'État, enfin, vous savez qu'on a ouvert pour les journées du patrimoine, on a fait une sorte de préouverture du parc qui a été restauré. Et le résultat est, je trouve, enfin bon, je suis peut-être mal placé pour le dire, mais je le trouve éblouissant de beauté. Enfin,
l'ouverture ça va être... définitive la fin de la
dans un an, printemps 2015.
D'accord, très bien. Ben, écoutez, nous y serons.
Eh ben, j'espère bien. De nombreux auditeurs avec vous.
Alors, deuxième point sur lequel, alors en revanche, nous n'y sommes pas allés, mais nous y étions conviés. Et c'est vrai qu'on est parfois tellement débordés qu'on n'avons pas pu y aller. C'est Champs-sur-Marne.
Oui.
Donc, Champs-sur-Marne, il y avait eu un effondrement d'un plafond.
Alors, il y a eu l'effondrement d'un plafond qui a révélé la présence de mérules, hein, donc un champignon extrêmement toxique. Et donc, il y a eu une très grande campagne de restauration qui a été menée à l'initiative de mes prédécesseurs et que j'ai naturellement menée à bien. Le château a été fermé pendant 6 ans et ça a été l'occasion de restaurer les décors, en particulier les célèbres chinoiseries, puisqu'il y a 2 pièces avec des décors chinois extrêmement précieux. Et ça a été aussi l'occasion de mener un grand chantier d'augmentation et de restauration des collections, puisque là l'état de restitution c'est l'état d'Icahn d'Anvers, du nom de la famille qui a été propriétaire du château et qui l'a donné à l'état dans les années 30, en 1935 de mémoire. Et donc c'est le grand goût du 18e siècle des familles de la banque et de l'industrie à la fin du 19e siècle. Et donc les Icahn d'Anvers avaient un mobilier, des objets extrêmement précieux, beaucoup de porcelaine chinoise montée, etc., bibliothèque naturellement. Et donc nous avons considérablement enrichi l'ameublement des pièces restaurées, là aussi à partir d'une couverture iconographique dont on pouvait disposer, et en jugé par le succès public, je crois que c'est une opération qu'on peut qualifier de réussie.
Alors, il y a beaucoup d'autres, on pourrait parler beaucoup d'autres monuments. Azel Rideau
Alors, Azel Rideau, plusieurs choses. Il y avait un projet que j'ai trouvé à mon arrivée et que nous poursuivons, de partenariat avec le Mobilier National pour remeubler le rez-de-chaussée dans l'état Biancourt, la famille de Biancourt étant la famille des propriétaires du château au XIXe siècle. Alors, c'est la Renaissance telle que le XIXe siècle pouvait la voir. Et au-delà de cela, j' ai quand même été très frappé à mon arrivée de l'état de conservation peu satisfaisant du château. Et donc, nous avons lancé une très grande opération de restauration du parc, des façades, des couvertures et du système hydraulique. Parce qu'évidemment, ce qui fait la célébrité d'Azé, vous le savez bien, c'est le miroir d'eau. Et ce miroir est très envasé. Il y a des problèmes hydrauliques à régler. Donc, c'est un des grands chantiers des années qui viennent.
Alors, encore deux, on passera à d'autres monuments très importants un peu plus tard, Mais le Rambouillet, donc c'est récent, ça.
Oui. Rambouillet, alors Rambouillet, c'est aussi, il a été récupéré, comme vous dites, au moment où il a cessé d'être sur une base, une demeure présidentielle.
Il n'y a plus du tout de fonction présidentielle, ou je crois qu'il est encore.
Premier ministre a la possibilité de l'utiliser effectivement, mais indépendamment de cela, nous engageons une grande campagne de travaux qui va commencer à l'automne, qui va porter sur le clos et le couvert, les façades, les menuiseries, les toitures qui sont très très endommagées. Je ne sais pas si vous êtes allé à Rambouillet récemment. Voilà. Et dans le même temps, je voudrais profiter de cela pour lancer à l'identique de Champs une campagne de réflexion et de restauration sur les décors intérieurs. Vous savez que ce qu'on appelle l'appartement d'assemblée, qui est le grand appartement que le comte de Toulouse avait fait aménager au XVIIIe siècle sous la Régence, donc le comte de Toulouse, fils bâtard de Louis XIV, comme tous vos auditeurs le savent bien, et il avait fait décorer les salons boisés par les plus grands décorateurs ébénistes de l'époque, et ce décor a énormément souffert du temps, et donc je voudrais que nous engagions un grand projet de remise en état de l'appartement d'assemblée du comte de Toulouse et puis ultérieurement des appartements de Napoléon Ier.
Alors, pour rester dans les demeures présidentielles, le fort de Brégançon, qui vous est revenu,
oui,
plutôt que de dire que vous l'avez récupéré, voilà, qui vous est revenu.
Voilà.
On décide de vous affecter donc le fort Brégançon, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
On s'est mis au travail pour voir comment on pouvait ouvrir, parce que ça a l'air d'être très simple de transformer en lieu ouvert au public une résidence présidentielle, mais non, pas du tout. C'est parce que qui dit ouverture au public dit respect d'un certain nombre de normes de sécurité, etc. Et donc nous avons travaillé à ce projet en liaison avec les services de la présidence de la République, et nous allons dans les jours qui viennent annoncer la date d'ouverture au public, qui devrait être tout à fait à la fin du mois de juin, et le public pourra visiter tout l'été le fort.
Très bien. Alors passons maintenant à un monument, parce qu'on parle beaucoup de restauration, vous faites beaucoup de restauration, ça coûte très cher.
Oui.
Donc peut-être une question, c'est comment arrivez-vous à financer cela, surtout dans un contexte qui n'est pas facile pour la culture, Alors personnellement, je conteste, évidemment, je ne vous demande pas votre avis là-dessus parce que vous ne pouvez pas le donner, mais je conteste la baisse du budget de la culture, et en tout cas celle du budget du patrimoine. Alors, en tout cas, vous arrivez malgré tout à faire beaucoup de restaurations. Alors,
c'est la vertu, enfin je ne vous laisse pas aller jusqu'au bout de votre question,
mais
je crois que c'est la vertu de notre modèle économique, et ça c'est on voit la force de l'intuition des créateurs de la Caisse nationale, c'est-à-dire qu'avec ce pot commun dans lequel nous mettons en commun donc toutes nos recettes de visite, nos recettes d'exploitation commerciale, nos recettes de boutique, bon, les subventions que nous avons quand même, parce que l'État ne nous laisse pas tomber, il faut le dire, nous conservons une capacité d'action au service du patrimoine qui fait que donc nous pouvons mener les chantiers que l'État de conservation des monuments exige, et puis nous pouvons venir en aide à l'État et accueillir de nouveaux monuments, ouvrir de nouveaux monuments au public dans notre réseau, que ce soit le fort de Brégançon ou l'hôtel de la Marine.
Alors parlons du Panthéon maintenant.
Oui.
Parce que, alors, le Panthéon, pour plusieurs choses, d'abord c'est un énorme chantier, 100 millions d'euros, je crois.
Si on fait tout, hein. Oui. C'est-à-dire que 100 millions d'euros, c'est la restauration du dôme, c'est la restauration du péristyle, de toutes les façades, et la restauration des décors intérieurs. Hein. Donc c'est un programme extrêmement ambitieux. C'est une remise à neuf complète.
Alors, pas trop neuf, j'espère. Mais je crois que c'est un bâtiment qui, dès le début, s'effondrait, enfin, qui a eu des problèmes de
structure. C'est un monument fragile et qui a toujours inquiété les observateurs ou les riverains qui craignaient que sa structure ne tienne pas la route, notamment du fait de la pression énorme du dôme. Bon, donc vous savez que sitôt après la conversion de l'église en temple, Quatre Mères de Quincy a bouché les verrières pour espérer consolider les parois. Bon, là, il est vrai que les défauts d'étanchéité provoqués par le mauvais entretien des toitures dans les années 60 à 80 fait que donc les tirants de métal ont déséquilibré complètement le jeu des poussées. Et nous constatons maintenant qu'avec l'échafaudage, on va très près de la coupole et du lanternon, on s'aperçoit qu'il y avait véritablement un problème de stabilité, qu'il était urgent d'intervenir.
Alors, vous avez fait un peu l'actualité en refusant d'inscrire sur cette bâche et de financer une partie des travaux de la publicité. Je dois dire que effectivement, alors personnellement, j'en suis très heureux parce que, enfin, on va pas en parler ici, ce serait trop long, mais pour moi, la publicité sur les monuments à Paris est un scandale de plus en plus important. À Venise, il y a eu une campagne très large mondiale qui a fini par aboutir. Je crois que ces derniers temps, il y a beaucoup moins de publicité. Je sais que vous n'êtes pas opposé à cela, vous êtes opposé sur le Panthéon. En revanche, vous avez décidé de faire travailler, entre guillemets, l'artiste JR. Au départ, JR, que je ne connaissais pas, je pensais que c'était Dallas.
Vous mettez artiste entre guillemets, comme dans le cas précédent. Non, c'est pas le cas, c'est un vrai artiste.
Je ne trouve pas ça vraiment formidable, mais c'est une question de goût personnel. Je ne mets pas entre guillemets, voilà, mais vous faites intervenir JR. Je pense que ça ne sera pas très, j'ai quelque chose d'horrible pour vous, ça ne sera pas très gênant parce que ça sera en noir et blanc et ça n'abîmera pas donc la vue sur la bâche du Panthéon. Très bien, mais vous n'êtes pas vous particulièrement opposé d'ailleurs aux publicités sur les bâches, simplement pas
mais, là. Mais c'est pas ça, c'est exactement. Moi, je ne peux pas avoir d'opposition de principe parce que, si vous voulez, j'en reviens à ce qu'on disait l'instant d'avant, j'ai besoin d'argent. Enfin, le patrimoine a besoin d'argent. Donc,
je pense qu'à un moment donné, si vous voulez,
il y a eu un moment où, alors c'est vrai que le long des rives de la Seine, entre le musée d'Orsay, la Légion d'honneur, le Louvre, les projets se succèdent aux projets. Oui, mais ça montre qu'on fait des travaux en même temps. Enfin, ça le montre d'une façon.
L'exemple de la place des Vosges montre qu'en fait, il n'y a pas de travaux derrière. Il y a plusieurs exemples dans Paris où je pense qu'il n'y a pas de travaux derrière.
Oui, à Venise d'ailleurs, c'était un des problèmes. Bon. Mais donc, si vous voulez, je ne peux pas honnêtement être contre. Et puis d'autre part, moi je pense que la publicité, j'ai vu à Venise des choses d'un mauvais goût effrayant, mais le talent de création des publicitaires peut limiter les dégâts. Mais. Il y a des endroits où c'est vraiment pas possible. Et on ne peut pas à la fois soutenir qu'un lieu comme le Panthéon ou comme l'Arc de Triomphe sont, en raison des tombeaux qu'ils abritent, en raison de la signification qu'ils ont dans la République. On ne peut pas dire que ces monuments ont une sorte de valeur sacrée laïque et en faire un support publicitaire. Ce n'est pas possible, si vous voulez. Moi, je pense que vous pouvez accepter de mettre dans la sphère privée une publicité sur votre voiture ou sur votre réfrigérateur, etc., pas sur la tombe de vos parents. Et bien, c'est exactement du même ordre.
Très bien. La revue de presse. Dans Le Monde, Michel Guérin a publié un article très intéressant, « Les patrons de musées sont devenus fous », qui correspond un peu à ce que parfois j'ai tendance à penser. En tout cas, clairement, cela pose la question de la gouvernance de certains musées, dont nous avons toujours dit qu'il faut les confier à des conservateurs, mais ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas former ces conservateurs à la gestion. Cela ne s'improvise pas. Aux États-Unis, il y a au moins deux formations pour les conservateurs prometteurs, pour les faire passer directeurs de musées. Ils ont des formations, je crois que ça dure un an, pour leur apprendre à diriger un musée. Ça ne s'improvise pas de diriger un établissement. Donc je pense que ça devrait peut-être se faire en France. En tout cas, il ne faut pas confier ces musées à des personnalités dont on sait déjà parfois qu'elles se comporteront en petit tyran, ça arrive. À propos du musée Picasso, certains noms circulent, espérons que l'on n'en passera pas de terrible dans celui-là. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Un article dans Les Échos de Laurence Albert, « La piscine Molitor s'offre une troisième vie ». Bon, ça me fait beaucoup rire, en gros, rire jaune d'ailleurs. Nous allons avoir plein d'articles de ce genre dans les semaines qui viennent, parlant de la restauration, entre guillemets, vraiment de la restauration, entre guillemets, de la piscine Molitor. Celle-ci s'est, paraît-il, révélée délicate, toujours entre guillemets. Mieux, selon le nouveau directeur de Molitor, M. Vincent Mézard, ils ont, je cite, « rendu sa couleur d'origine à la piscine ». À supposer que ce soit vrai, il n'y a vraiment que la couleur qui sera d'origine. Et sans doute quelques éléments décoratifs remontés, car évidemment tout cela est faux. La piscine Molitor n'a pas été restaurée, elle a été détruite. On a reconstruit quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir avec la piscine d'origine. J'irai la visiter lundi, j'essaierai de voir ce qu'il y a encore d'authentique ou pas dans cette piscine, mais dire que la piscine Molitor a été restaurée, comme vous allez l'entendre partout dans la presse dans les prochains jours, est simplement faux. Et deux articles auxquels je renverrai justement à propos des bâches publicitaires. Un article du Monde, quand les bâches publicitaires envahissent les monuments historiques. Un article d'ailleurs avec quelques erreurs factuelles que Alain Corcos, sur le site Arrêt sur Image, a relevé. Donc je renverrai à ces deux articles. Je me retourne à nouveau donc vers Philippe Laval pour parler encore d'un nouveau bâtiment pour le Centre des monuments nationaux. On craint de temps en temps, et ça je veux dire que je le crains, peut-être vous aussi, que certains monuments, vous souhaitez enlever les plus rentables, qui permettent de financer aussi. Hein, je pense qu'il y a un problème de péréquation entre les monuments.
Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est le fondement même de notre système économique.
Et donc, je pense que l'idée de retirer certains monuments au Centre des monuments nationaux, évidemment les plus rentables, est une mauvaise idée. Ça, je pense que là-dessus, si jamais un jour ça arrivait, je ne crois pas que ça soit le cas, mais si ça arrivait, je pense que nous, enfin, en tout cas, la Tribune de l'Art essaierait de s'y opposer dans la mesure du possible, parce que c'est important que, un peu comme les blockbusters au cinéma payent les films d'auteur, des monuments très visités payent pour des monuments moins visités. C'est, je pense, une économie assez saine.
Puis même, si je peux vous interrompre là-dessus, voilà, par rapport... Alors, je sais que la notion de monument national, on ferait des thèses et des colloques très longs, mais voilà, je trouve que les monuments... Enfin, il y a une notion un peu de collection de monuments. Et je pense que, si vous voulez, les départs de monuments de 2004, hein, puisque Chambord, le Haut-Königsbourg, Chaumont, Fontevraud, etc., ont quitté le périmètre du Centre des monuments nationaux. Et bon, voilà, ça crée un membre. Enfin, en tout cas, l'institution, si vous voulez, souffre encore de ces départs, comme paraît-il, les amputés souffrent des membres qui leur ont été coupés.
Ouais, c'est vrai qu'en 2004, la Tribune de l'Art avait à peine un an et on était peut-être encore pas assez conscient de tous ces problèmes. On ne sait pas vraiment. Enfin, si, on avait parlé d'ailleurs de ces problèmes de. À un moment donné, on voulait donner beaucoup de monuments en fait, aux villes, etc. Comme si les villes avaient plus d'argent que l'État pour les restaurer, ce qui n'est pas forcément.
C'est pas toujours le cas.
Le cas. Effectivement, il y a quand même dans l'économie du Centre des monuments nationaux, je pense, une véritable vertu qui est de permettre la répartition de l'argent sur plusieurs monuments, qui sinon n'auraient pas l'argent. Donc on vous a, au départ, l'hôtel de la Marine, donc, qui était au départ dévolu au Louvre, qui finalement, Jean-Luc Martinez, après son arrivée, a dit qu'il ne souhaitait pas le récupérer. Personnellement, ça ne m'a pas beaucoup gêné, parce que je pense que transformer l'hôtel de la Marine en musée impliquait des travaux qui allaient être extrêmement lourds. Je pense que pour le Centre des monuments nationaux, c'est donc des visites, ça sera certainement moins... Mais alors, quel est votre projet pour l'hôtel de la Marine ?
Écoutez, le projet que nous avons soumis au gouvernement et qui doit le ratifier définitivement dans les semaines qui viennent, c'est effectivement un projet qui tourne, qui est fondé sur le monument lui-même, c'est-à-dire sur l'idée que le monument lui-même mérite d'être visité de par sa disposition, ses décors, son architecture évidemment, et que donc cette visite suffit d'autant plus à elle-même que, comme vous le savez, les appartements d'apparat de l'hôtel abritent une collection de mobilier, elle-même d'ailleurs protégée au titre des monuments historiques, et d'un très grand intérêt. Voilà. Donc nous l'enrichirons d'ailleurs, cette collection, en partenariat avec le Mobilier National, avec d'autres institutions. On aura tout de même des salles d'exposition temporaires, parce que je pense que ça fait partie du complément de la visite, parce qu'il faut quand même, on n'est pas n'importe où, on est place de la Concorde, l'ancienne place Louis XV, il y a beaucoup d'histoires à raconter sur les bâtiments de Gabriel, le projet de Louis XV, le réaménagement de la place Paris-Torf, la construction de la Madeleine, de la façade du palais Bourbon, enfin bref, il y a beaucoup d'histoires à raconter autour de l'hôtel de la Marine, donc il y aura des salles expositions, mais effectivement, à la différence de ce que voulait faire le Louvre, nous n'entendons pas faire un musée, proprement dit, de l'hôtel de la Marine. Et effectivement, c'était beaucoup plus coûteux en travaux parce qu'il fallait aménager un parcours aux normes muséologiques.
Quel est l'horizon d'ouverture de la part du Fonds de Musée?
Écoutez, alors ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres, et notamment du calendrier du départ complet de la marine. Mais en tout cas, l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est le plus vite possible après le départ du dernier marin.
D'accord, donc c'est pour le moment. Est-ce que le chantier avance à Ballard ou...
Le chantier avance de manière qui, je crois, est jugée satisfaisante par mes interlocuteurs au ministère de la Défense. Voilà, donc, mais je pense que c'est une ouverture qui est plutôt à prévoir à l'extrême fin de 2016 ou plutôt au début de 2017.
Alors, passons à d'autres questions qui ont trait au Centre des Monuments Nationaux, avec donc sur Twitter, je crois, un follower, comme on dit, un suiveur de la Tribune de l'Art, un abonné de la Tribune de l'Art, m'a posé une question infiniment intéressante que je souhaite vous poser, qui est, et je dois dire que je ne savais pas vraiment, je n'ai jamais fait attention à ça, mais c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est l'autorisation des photos. Il semble qu'au Centre des Monuments Nationaux, il est interdit de prendre des photos, et qu'on demande à ceux, ou alors on interdit, soit on demande des redevances d'autorisation temporaire, peu importe. Mais alors que vous connaissez la position de la Tribune de l'Art, je pense que c'est une position qui finalement est assez légaliste, qui est des monuments qui appartiennent à l'État, des monuments, des œuvres qui sont la plupart du temps dans le domaine public, on doit pouvoir photographier et utiliser les photos comme on le veut. Pourquoi ces restrictions à la photographie? Est-ce que vous allez faire évoluer cette situation?
La question de votre follower est excellente et je le remercie de me l'avoir posée. Parce que, en réalité, en regardant un peu la situation, je me suis aperçu d'une très grande diversité de cas. Je dirais qu'il y a autant presque de situations différentes ou de réglementations différentes que de monuments. Et donc, j'ai décidé que nous procéderions à une remise à plat complète de la situation, à la lumière aussi du fait que, avec les smartphones, enfin les appareils de photos intégrés aux dispositifs électroniques, etc., la question de la photographie dans les lieux de culture, dans les musées, est complètement différente de ce qu'elle était il y a 20 ans. Je pense que tout le monde s'attend à faire des photos. Voilà, alors pourquoi à tel endroit oui, à tel endroit non, etc. Enfin, ce n'est pas clair. Il faut que nous remettions complètement à plat cela.
Enfin, on croit comprendre ce que vous dites, que vous allez remettre en place, pas en disant partout non, mais plutôt partout oui.
Ah ben, je pense que, vraiment que la possibilité de photographier... Alors, je suis très attaché au respect de la propriété intellectuelle, etc.
Donc,
je veux dire, après, ça peut quand même aller assez loin parce qu'on peut avoir dans les expositions quand même des documents qui
vous
sont...
Vous savez qu'on a le droit de les photographier, on n'a pas le droit de les utiliser après.
Oui,
pas,
oui, mais sauf qu'après, le contrôle de...
La RMN autorise maintenant les photographies. Oui, dans les
oui, oui, mais non, mais bien sûr, mais bien sûr. Donc, si vous voulez, il faut bien que nous prenions cela en considération. Donc, voilà, donc il faut le faire. Et je pense que donc la possibilité de photographier et éventuellement d'ailleurs de créer, ça fait vraiment maintenant partie du nouveau rapport du public avec l'œuvre d'art, avec le monument, etc., ou avec le musée, l'institution, tout ce que vous voudrez. Et par conséquent, il faut...
C'est une réponse très satisfaisante qui satisfera également... Bernard Askenoff, dont nous parlions tout à l'heure, l'ouvre pour tous, qui
oui.
a aussi...
Oui, qui mène une bataille, voilà, et qui a quelques institutions parisiennes dans le collimateur à ce sujet.
Les mêmes que moi, curieusement.
Ça, je vous laisse la responsabilité de vos inimitiés.
Je suis parfaitement conscient de mes inimitiés et je m'en contiens. La direction scientifique, là, c'est une chose aussi, j'ai pas vraiment étudié le problème, mais il y avait une direction scientifique unique, au sein des monuments nationaux, vous avez cassé cette organisation, vous avez fait une organisation différente, ce qui n'a J'ai l'impression que ça a pu poser
il y avait...
problème. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et
oui,
pourquoi ?
Volontiers. Il y avait dans l'ancienne organisation une direction qu'ils appelaient direction de la maîtrise d'ouvrage et qui était responsable des travaux sur les bâtiments et sur les parcs, les espaces naturels, etc. Et l'ensemble des immeubles. Et puis une direction qui s'appelait donc la direction scientifique et qui était responsable de la gestion des collections conservés dans ces monuments. Et il y avait cette situation-là conduisait d'abord à des conflits de frontières entre les deux directions, et alors notamment, justement, on parlait tout à l'heure des immeubles par destination de la Villa Cavrois, les immeubles par destination, est-ce que des tentures, par exemple, dans un château, c'est de l'immeuble qui relève de la direction de la maîtrise d'ouvrage ou du meuble qui relève de la direction scientifique. Donc nous avons rapproché les deux directions pour avoir une prise en compte globale des questions immobilière et mobilière. Voilà. Et du coup, notre programmation d'ensemble dans des opérations qui à la fois allient comme à Champ, comme à Rambouillet, comme à Azé, extérieur, intérieur, contenant contenu, pour parler très trivialement, la programmation de ces opérations est considérablement améliorée.
Et donc, il y a...
Il y a une grande direction de la conservation des monuments et des collections, qui est organisée elle-même en pôles régionaux, et ces pôles ou interrégionaux, et ces pôles sont compétents à la fois pour les travaux sur les bâtiments et pour les travaux sur les collections.
Il y a toujours cette transversalité qui me paraît essentielle au sein des monuments nationaux, en fait.
Ah oui, mais la transversalité est préservée, et la dimension scientifique de la fonction est préservée parce que la responsabilité patrimoniale ne se divise pas et que nous sommes autant responsables vis-à-vis des collections que nous conservons que vis-à-vis des immeubles.
Alors très rapidement, un mot sur l'autre, très rapidement parce que nous arrivons à la fin de cette émission, mot sur votre politique d'acquisition et d'exposition.
Oui. Alors, sur la politique d'acquisition, nous cherchons par priorité à acquérir des objets ou des ouvrages, des sources documentaires qui sont très directement en relation avec nos monuments et qui peuvent être présentés au public. Voilà, donc le type même de ce genre d'acquisition, c'est les acquisitions qu'on a faites pour la Villa Cavrois, où chaque fois qu'un objet ou un meuble de la villa passe sur le marché, on essaie de l'acquérir, ou récemment, on a acheté aussi des tapisseries qui complétaient des séries que nous avions, puisque le Centre des Monuments Nationaux possède la plus grande collection de tapisseries de France, après celle du mobilier national. Voilà. Et, ou autre source documentaire, par exemple, lié au monument, c'est l'album que nous avons acquis récemment en vente publique du Duc d'Antin. Vous savez, la description.
Bien sûr, c'est un sujet dont j'aurais dû parler. Il y a eu plusieurs préemptions.
Voilà, il y a eu plusieurs préemptions. Et préemptions, la Bibliothèque nationale qui a acheté l'album sur.
Nous n'avons pas encore fait.
Bon, mais voilà. Et donc, nous avons acheté l'album consacré à Oiron, puisque le château de Oiron a appartenu au Duc d'Antin. Et donc voilà. Alors, on a pu aussi acquérir des meubles ou des tableaux, des objets d'art destinés à enrichir l'ameublement des collections. Mais je dois dire que pour des raisons de modération financière aussi, moi je préfère, si vous voulez, me fonder surtout sur ce qui est très directement lié au monument, parce qu'il me semble que lorsque on est dans l'évocation, on peut assez facilement recourir à des partenariats avec le mobilier national, avec les arts décoratifs, avoir des dépôts avec, par exemple, les hospices de Beaune, qui sont une très grande source de dépôts à mobilier du XVIIe siècle. Voilà.
En même temps, vous avez acquis, en tout cas, le Centre des Monuments Nationaux a acquis ces dernières années quelques peintures du 17e siècle, par exemple, oui, très intéressantes,
absolument,
qui permettent de compléter un peu l'action
dans,
des musées,
dans les appartements, oui, absolument, dans les appartements de la duchesse à l'hôtel de Sully, qui sont à Maison Lafitte, pour l'un d'entre eux, à Cadillac, absolument.
Donc, c'est, à mon avis, une politique qui permet... alors que les musées, des fois, ont du mal à acheter, d'acheter des œuvres assez belles, très belles même parfois, et pas forcément très chères, donc
absolument,
c'est qui enrichit le patrimoine national. Les expositions ?
Alors, la politique d'exposition, elle est liée, elle aussi, aux monuments, elle est liée assez largement aux anniversaires. Par exemple, cette année, nous avons une grande exposition à la Conciergerie sur Saint-Louis, et la Rotonde de Saint-Louis, donc c'est le 8e centenaire de la naissance, avec aussi une exposition d'ailleurs à Angers sur le même temps.
Avec un reproche quand même que j'allais vous faire, parce que j'ai vu la très belle exposition d'Alexandre Gadi, dont vous savez que c'est quelqu'un... avec qui nous travaillons souvent, Alexandre Gadi.
Soufflot, c'était ça.
C'est Soufflot, oui. Une très belle exposition, sans catalogue.
Sans catalogue, oui, ça je sais. Je sais que c'est un de nos points de désaccord indépassable.
Énorme,
mais
parce que,
énorme.
Parce que si vous assumez vraiment le fait d'avoir une exposition sans catalogue, l'exposition Soufflot n'existe plus. C'est-à-dire que l'exposition Soufflot, il n'y a plus rien qui en témoigne.
Je n'en disconviens pas, c'est très largement lié au délai de très grande urgence dans lequel ce projet a été monté. Et voilà.
Saint-Louis aura un catalogue,
absolument, en bonne et due forme. Voilà. Et puis on a aussi une exposition sur Viollet-le-Duc à Carcassonne, oui, mais qui est une exposition de moindre format, puisque la grande exposition a lieu, comme vous le savez, à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Chaillot à la rentrée.
Tout à fait.
Livre.
Les livres, juste deux livres pour aller rapidement. Des livres que nous avons reçus cette semaine. La cathédrale illustrée de Hugo Amonet, de Ségolène Le Menn, puisque dans la collection Bibliothèque Azan, chez Azan. Donc c'est un livre qui s'intéresse à l'image de la cathédrale au 19e siècle. Donc il va forcément avec le livre publié à l'occasion,
oui,
de l'exposition dont nous n'avons pas encore parlé. Mais enfin, nous en avons parlé avec Sylvain Amic, qui était notre invité il y a quelques semaines, donc le directeur du Musée des Beaux-Arts de Rouen, qui organise une exposition sur la cathédrale actuellement. Donc le catalogue va paraître incessamment. Il y a un catalogue bien petit.
Et que le président du Centre des Monuments Nationaux va aller visiter bien vite.
Voilà, c'est une belle exposition. Deuxième livre, Les transferts artistiques dans l'Europe gothique. C'est un livre collectif. Donc les transferts artistiques dans l'Europe gothique, ça dit bien ce que ça dit, c'est-à-dire l'évolution, les modèles qui bougent, les modèles, les influences dans l'Europe gothique. C'est un très beau livre avec beaucoup d'illustrations en couleur qui me semble extrêmement scientifique. C'est toujours, je ne l'ai pas lu, ça, ce sont des livres que je n'ai pas eu le temps encore de lire ou que je ne dirai peut-être malheureusement pas parce que le temps nous manque, mais en tout cas il est important de le signaler qu'il existe. Publié par Picard, donc un éditeur qui a l'habitude de ces ouvrages extrêmement sérieux. Donc les transferts artistiques dans l'Europe gothique, qui est publié sous la direction de Jacques Dubois, Jean-Marie Guillouette et Benoît van den Bosch. Un dernier mot avec Philippe Bédaval pour savoir, donc vous allez voir l'exposition
à
Rouen, vous ne l'avez pas encore vu. Est-ce que vous avez une ou deux expositions que vous souhaitez, que vous avez vues récemment et dont vous souhaiteriez parler, ou des livres que vous souhaiteriez
J'ai vu l'exposition sur le vernis Martin et les lacs françaises au Musée des Arts Décoratifs.
Donc, Bénédicte Bonnet Saint-Georges qui m'a donné une recension sur la tribune de l'art.
Absolument, et qui m'a, même si le rococo n'est pas nécessairement ma période préférée, qui m'a paru extrêmement intéressante parce qu'elle montre le talent de ces artisans et le foisonnement. C'est-à-dire que je pensais que ça s'était limité à quelques meubles, mais en fait, le répertoire était extrêmement étendu, les instruments de musique, les carrosses, les objets de vertu. Enfin, c'est une exposition qui m'a vraiment ravi. Une lecture, là, je vais avoir l'air très snob, mais j'ai lu l'ouvrage en anglais que Obrist a consacré au curateur, ce nouveau personnage qui est apparu parmi les acteurs de l'art, et une réflexion extrêmement intéressante. Un curateur, c'est une personne à qui on confie l'organisation d'exposition. Alors c'est surtout l'art contemporain. Enfin, c'est un commissaire, mais c'est un peu plus qu'un commissaire en même temps. Et voilà, c'est lui qui principalement dans l'art contemporain, parce que c'est une notion qui, d'ailleurs, Obrist lui-même fait ce métier-là, et donc il va assurer des regroupements, des rapprochements d'œuvres, éventuellement commander des œuvres à des artistes. Voilà, les curateurs sont devenus une espèce de gourou, mais sans aucune nuance péjorative, sauf qu'évidemment, il y en a d'excellents, il y en a de moins bons, et qui, comme ça, se sont imposés comme des personnages incontournables de la scène contemporaine. Bon, vous avez par exemple Jean-Hubert Martin, par exemple. Voilà, c'est un curateur.
Et ce livre dit quoi en gros ?
Eh bien, ce livre revient sur les origines de la fonction et comment on est passé progressivement donc du commissaire d'exposition traditionnel à ce curateur, et qu'est-ce que ça veut dire dans le rapport avec le public. Alors, il y a un certain nombre de vues prospectives. C'est un livre qui me paraîtrait mériter une traduction française.
Très bien. Écoutez, peut-être viendra-t-elle. Je vous remercie, Philippe Lavalle,
d'avoir
répondu à notre invitation. La prochaine émission sera diffusée jeudi 22 mai à 18h. L'invité est encore à préciser. La semaine suivante, l'émission aura lieu le mercredi 28 mai. Nous aurons comme invité quelqu'un avec qui vous avez travaillé, puisque c'est Marie-Christine Labourdette qui va largement nous parler du Festival de l'Histoire de l'Art, mais également des musées en France. Merci encore, et donc à la semaine prochaine.